Suite du question-réponse numéro 4, deuxième partie. Question de Roxy. Puisque tu vis à Londres, que penses-tu de l'affaire Telford et comment s'est déroulée l'affaire en interne? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'affaire Telford, c'est cette affaire de pédophilie qui s'est passée dans une petite ville au Royaume-Uni. Et pour résumer, c'est un groupe qu'on appelle le gang des coiffeurs. C'est un groupe de Pakistanais qui a violé des petites filles anglaises, des petites blanches, pendant des années. Et ça a fait scandale et les Britanniques ont reproché à la police d'avoir gardé le silence pendant trop longtemps, parce que effectivement, c'est pas un truc qui s'est passé pendant quelques semaines. On parle de filles qui se sont fait, enfin de filles, de petites gamines, qui se sont fait violer par des Pakistanais. Hein. Le dénominateur commun entre tous ces violeurs, c'est que ils étaient tous Pakistanais. C'était un groupe. Alors, est-ce qu'ils avaient des relations familiales, des cousins, des amis, mais voilà, ils étaient tous Pakistanais. Et beaucoup de gens ont reproché à la police de ne pas avoir intervenu assez tôt, parce que ces choses se savent. Tu peux pas avoir un scandale pédophile de cette ampleur sans que personne ne sache vraiment ce qui se passe. Il y a bien un policier qui a parlé, il y a bien un enquêteur. À un moment, il y a peut-être des parents, de la famille, il y a des gens qui ont dû parler. Mais on les a fait taire. Et l'argument, c'était de dire « Vous avez peur d'être traité de raciste ?» Et donc, vous n'avez pas parlé. C'est un peu ce qu'on a reproché au Royaume-Uni, ou plutôt à la police britannique, en disant « Vous êtes tellement obsédé par la question du racisme que vous avez peur d'arrêter un Pakistanais parce qu'on va vous traiter de raciste. » Mais la réalité est un peu plus complexe, et ce qu'on ne comprend pas dans la pédophilie, beaucoup qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Tu ne parles pas assez des Pakistanais qui ont violé des gamines en Angleterre ?» Eh bien voilà, là c'est l'occasion d'en parler. Le problème de la pédophilie, c'est que dès que tu montes dans les étages, tu te rends compte que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dangereux que ça. Tous les policiers qui parlent, comme dans l'affaire Dutroux, c'est-à-dire que on arrête les premiers, hein, on arrête le gang des coiffeurs en Angleterre ou les Dutroux en Belgique, on les arrête, on les condamne, mais dès qu'on essaye de monter dans la hiérarchie, de comprendre qui a payé ces Pakistanais, pour qui ils travaillaient, pourquoi, ou plutôt pour qui ils ramassaient toutes ces jeunes femmes, eh bien, les enquêtes s'arrêtent. Jamais, jamais, on ne va au bout des enquêtes pédophiles. Pourquoi? Eh bien, moi, je vais vous le dire, c'est que tous ces gens-là, les magistrats, les policiers, les enquêteurs, les juges, dès qu'ils montent un peu dans les étages, ils commencent à recevoir des menaces de mort et ça commence à devenir très dangereux pour eux. Parce que la pédocriminalité, c'est un truc où les élites sont mouillées et où quiconque va creuser ou quiconque veut creuser un peu plus finira avec une balle dans la tête. C'est ça le problème de la pédocriminalité, c'est que t'as des étages dans la fusée. Donc t'as les racoleurs tout en bas, t'as les Pakistanais, t'as les Dutroux qui ramassent des gamines, des enfants pour d'autres personnes. Mais quand tu essayes de comprendre qui sont ces personnes, tu commences à tacler dans du politicien, dans des milliardaires de la finance, et ça devient très très dangereux. C'est une mafia qui peut te liquider. Et le policier anglais, parce qu'il y a des policiers qui ont lancé l'alerte, faut pas croire que personne n'a parlé. Le policier, il va donner l'info à son supérieur hiérarchique, il va parler à son commissaire. Sauf que le commissaire, il va tuer l'affaire dans l'œuf. Il ne va pas communiquer cette info à des instances plus importantes. Parce que les mecs ont tout simplement peur. Un policier, c'est quoi? C'est un mec qui est payé 30K, hein, 30K par an, c'est 1800 livres sterling, 2000 euros par mois. Donc c'est pas beaucoup d'argent. Et chaque policier se demande, est-ce que ça vaut le coup de risquer ma vie pour 2000 balles par mois? Et c'est ça qui se passe. Et pour ceux qui sont au courant un peu de l'actualité, vous connaissez tous l'affaire Epstein, Jeffrey Epstein, qui est un millionnaire américain et qui avait été arrêté pour des actions, ou plutôt pour des pratiques pédocriminelles. Le mec est emprisonné. Le mec avait des contacts avec tout le gratin. Le mec connaissait les Clinton, il connaissait les Obama. Clinton avait fait un voyage dans son avion privé, il les avait invités sur son île privée. Donc c'est quelqu'un qui était très très intégré dans le pouvoir, qui fréquentait tout le pouvoir à Washington, qui fréquentait Bill Gates aussi. Donc il y a beaucoup de liens entre ce Jeffrey Epstein et les personnes de pouvoir. Epstein est emprisonné et il doit être jugé. Bien sûr, bizarrement, comme tous les gens sérieux et importants qui peuvent donner des infos qui doivent être jugés, il se suicide dans sa cellule. Il se suicide dans une prison hautement sécurisée à Manhattan. Et là, les enquêteurs disent, mais ok, il s'est suicidé, mais donnez-nous, on veut voir les vidéos. On veut voir les vidéos de son suicide parce que c'est une prison hautement sécurisée où il y a des caméras partout. Dans les cellules, dans les couloirs, il y a des caméras partout. Je vous le donne en mille, il se trouve que le soir de son suicide, les caméras ne fonctionnaient pas. Vous allez me dire que pour organiser un truc pareil, le mec est dans une cellule hautement sécurisée. Il se suicide, vous avez compris qu'en réalité, il a été assassiné. Il se suicide par hasard avant son jugement. Donc, quelque part, il y a des gens qui n'ont pas voulu qu'il soit jugé, qui l'ont exécuté dans sa cellule. Et en plus, les caméras ont été éteintes. Imaginez le niveau de connivence, le niveau de corruption qu'il doit y avoir dans cette cellule pour laisser entrer quelqu'un régler le compte à Epstein, le liquider dans sa cellule. Moi, je ne crois pas à la thèse du suicide, hein. Ces gens qui se suicident avant d'être jugés, ça m'intrigue toujours, surtout que les caméras étaient éteintes. Quelqu'un éteint les caméras. Donc le mec, pas de jugement, donc il n'a pas parlé. Et on ne sait pas, l'affaire est morte avec lui en fait. Le mec avait certainement des dossiers sur tout le monde et il a simplement été éliminé. Donc la pédocriminalité, c'est un domaine dangereux pour ceux qui veulent l'approcher. Pourquoi? Parce qu'on touche à une mafia extrêmement puissante, avec beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, et ceux qui pensent vraiment que les policiers britanniques n'ont pas parlé parce qu'ils avaient peur d'être traités de racistes sont très naïfs, sont très très naïfs. Les policiers britanniques n'ont pas parlé, et les juges britanniques n'ont pas parlé, parce qu'ils savent que le premier qui ouvre sa gueule se prend une balle dans la tête. Voilà la réalité de la pédocriminalité. Et à chaque fois qu'on attrape des pédocriminels, on attrape toujours voilà, le gang des coiffeurs, les Dutroux, les gens d'en bas, de la petite frappe, des petits voyous qui font des choses condamnables, bien sûr, mais qui ne sont pas les gros poissons, qui ne sont pas les gros poissons. Et à chaque fois qu'on veut monter dans les étages pour comprendre, mais où vont ces gamins? Qui a intérêt à financer ça, parce que ces pédocriminels, quelque part, ils étaient payés. Ne crois pas que ces Pakistanais ne touchaient pas d'argent lorsqu'ils chopaient toutes ces gamines. Ne crois pas qu'il n'y a pas un business derrière. Les mecs, c'est des crèves-la-dalle. Le Pakistanais, tu lui donnes 10 balles, il tue sa mère. Donc, faut arrêter d'être naïf et de croire que c'est un groupe de Pakistanais entre eux qui se sont mis à violer des gamines et qu'ils sont tellement puissants que la police n'a rien dit, que les commissaires n'ont rien dit, que les magistrats n'ont rien dit, que les juges n'ont rien dit. C'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est surtout beaucoup plus dangereux que ça. Parce que si un mec, un millionnaire comme Jeffrey Epstein se fait liquider dans sa cellule avec toutes les caméras qui tombent en panne par hasard, le soir où il se suicide, faut comprendre que derrière, on joue dans la cour des grands, là. On n'est pas chez de la petite frappe, on n'est pas chez de la petite mafia. Donc la pédocriminalité, c'est un peu ça le drame, c'est que c'est les gens de pouvoir qui la pratiquent, et je n'ai jamais compris, je n'ai jamais, jamais compris l'attirance de ces gens-là pour les gamins, ça me dépasse. Je comprends et je n'ai pas de jugement sur les pratiques sexuelles normales. Si tu veux, je m'en fous ce que les PD font entre eux, je m'en fous des partouzes, je m'en fous de la prostitution. Si tu veux, j'ai pas de jugement de valeur sur ces trucs-là parce que c'est de la sexualité entre adultes consentants. Que ça soit la pute, le partouzeur, le libertin, tout ce que tu veux, le gay, le trans. tout ce que tu veux, c'est de la sexualité entre adultes consentants. Et donc, à partir de ce moment-là, j'en ai absolument rien à foutre. Ou du moins, je n'ai pas de jugement de valeur. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Mais au moment, ou à partir du moment où on s'attaque à des gamins, là, ça me dépasse. Je ne comprends pas comment on peut être attiré par des gamins. C'est quelque chose qui me dépasse. J'ai essayé de lire sur le sujet, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme pour avoir envie de baiser un gamin. Ça me dépasse. Je ne comprends pas, à part une maladie psychologique, un dérèglement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça touche aussi des élites. Epstein, c'est pas un clochard, c'est pas un tocard, le mec c'est un millionnaire, il aurait pu se taper toutes les putes de la terre, il aurait pu être entouré des plus belles femmes du monde, il se tape des gamins, c'est quelque chose qui me dépasse. Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est une pratique sataniste, est-ce qu'il y a une croyance en une force supérieure diabolique, est-ce que c'est dans le cadre d'un culte, d'une croyance satanique qui fait que t'es obligé de passer par là? Je n'ai jamais compris ce truc, et je pense que je ne le comprendrai jamais, mais à part ces deux choses, hein, un dérèglement psychologique, une vraie maladie, des fous, tu vois, des gens qu'on devrait traiter avec des cachetons, je sais pas, avec de la chirurgie, j'en sais rien, donc de vrais malades, ou une deuxième option, une espèce de culte, ou une espèce de code pour entrer dans un groupe, pour devenir millionnaire, pour accéder à un certain niveau de puissance. C'est peut-être un culte entre des gens malades, extrêmement riches, extrêmement puissants, et qui te font passer une espèce de rite, pour t'intégrer à leur groupe. C'est peut-être une autre option, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ça, que tu as eu le rite de passage et qu'ils ont des dossiers sur toi, eh bien tu peux faire partie de leur club et la menace c'est que voilà, on va te faire élire président ou on va te donner tel business ou telle entreprise, mais si tu ne marches pas comme on te dit, on va dévoiler tes histoires de pédophilie. C'est peut-être aussi quelque chose de l'ordre du rite de passage ou du culte. Ce n'est que comme ça que j'arrive à l'expliquer. Donc voilà ce que je pense sur Telford. Il faut un peu dépasser le niveau de oui, c'est des Pakistanais, la police n'a pas voulu parler. C'est un peu plus compliqué que ça, la pédophilie. Et c'est surtout beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Et quiconque voudra de façon sérieuse s'attaquer à la pédophilie se prendra une balle dans la tête, ou du moins risque de se prendre une balle dans la tête, et ça, tous les policiers de la Terre le savent. Question: que penses-tu de cette théorie? Les temps difficiles produisent les hommes forts. Les hommes forts engendrent les temps de prospérité et de stabilité. Les temps de prospérité et de stabilité produisent les hommes faibles. Les hommes faibles engendrent les temps difficiles. Alors, ce n'est pas une théorie, c'est une citation. D'un philosophe qui s'appelle Ibn Khaldoun, qui est le père de la sociologie et qui est un berbère né en Tunisie. Donc ce n'est pas tout récent, tout ça. Ibn Khaldoun est né en 1332. Et c'est quelque chose que je valide complètement et que je vais développer pour le coup, hein, puisque tu me le demandes. Les temps difficiles produisent les hommes forts. Ben oui, forcément, hein, lorsque tu dois affronter des temps difficiles, lorsque tu dois te battre pour une cause, alors quelle que soit la difficulté, hein, ça peut être une difficulté climatique, des endroits où il fait froid, où la vie est dure, un peu comme la Russie, hein, l'homme soviétique a été un homme solide, un homme fort, parce que la Russie est un pays rude, un pays difficile, donc ça engendre des hommes forts. Ça peut être les moments de guerre, comme la Deuxième Guerre mondiale, où on a vu émerger des figures comme Churchill, comme De Gaulle. Donc des temps difficiles engendrent des hommes forts, des hommes qui auraient pu avoir une vie normale, qui auraient pu ne pas être particulièrement forts, eh bien les temps difficiles les rendent forts. Ça s'applique aussi aux premières générations d'immigrés, les premiers immigrés qui sont arrivés aux États-Unis, les premiers Italiens, les premiers Irlandais, eh bien ils étaient confrontés à des conditions difficiles, arrivés dans un nouveau continent où ils devaient travailler. Donc les premières générations d'immigrés aux États-Unis, ben, c'était des gens, c'était pas des LGBT, hein, c'était des gens costauds, rustres, forts, durs, qui en voulaient, qui ont traversé l'Atlantique pour s'en sortir. Et donc oui, la difficulté génère des hommes forts. Ensuite, les hommes forts engendrent les temps de prospérité et de stabilité. Tous ces hommes forts qui ont travaillé, ces hommes qui ont construit l'Amérique, eh bien, ils sont arrivés pour créer une vie meilleure dans ce nouveau continent. Donc, toute cette énergie que les hommes forts ont mis, ils l'ont mise pour construire des temps meilleurs, pour construire de la prospérité, de la stabilité pour eux, pour leurs enfants, pour leurs descendants. Et le rêve de l'immigré irlandais, italien qui arrive en Amérique, c'était de construire un meilleur avenir à ses enfants, un meilleur lendemain. Donc ils ont travaillé, œuvré à créer de la prospérité, de la richesse, de la stabilité. Ensuite, les temps de prospérité et de stabilité produisent des hommes faibles. Alors là encore, c'est quelque chose qu'on peut constater aujourd'hui, parce qu'une fois que les pères fondateurs, une fois que les premiers immigrés ont créé des usines, des gratte-ciel, la conquête spatiale, une fois qu'ils ont créer de la richesse, de la stabilité, de la prospérité, qu'ils ont développé l'agriculture, qu'il y a à bouffer pour tout le monde, eh bien, t'as une génération de jeunes complètement perdus, qui n'ont plus de rêves, qui n'ont pas de guerre, un peu comme la fameuse citation de Fight Club. Nous n'avons pas de grande guerre ni de grande crise, notre guerre est spirituelle, la grande crise, c'est notre existence. C'est un peu cette génération perdue qui n'a pas été poussée à un monde meilleur par la guerre, qui n'a pas été poussée par l'immigration et la volonté de créer un monde meilleur. C'est quelque part une génération qui a tout eu facilement. Et du coup, c'est une génération qui s'est lancée dans des causes, parce qu'il faut bien se créer des causes pour continuer à vivre. Eh bien, ils ont créé le LGBT, l'égalité des sexes, le féminisme. Toute cette merde qu'on subit quelque part aujourd'hui, c'est à cause d'une génération de 68ards qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas connu le nazisme, qui n'a pas connu les invasions, qui n'a pas connu la faim, qui n'a pas connu la crise économique, qui n'a pas connu la guerre civile. Et donc, voilà, c'est la génération des enculeurs de mouches. Et ils nous ont laissé l'égalité homme-femme, le féminisme, le LGBT, le transhumanisme, le transsexuel. Toutes sortes de combats qui, quelque part, n'élèvent pas vraiment l'humanité. On est exactement dans ça. On est dans, aujourd'hui, la création d'hommes faibles qui a déjà commencé depuis mai 68, hein, la mort du patriarcat et cette génération d'hommes faibles qui a pris le pouvoir. Et cette génération d'hommes faibles, une fois qu'ils ont pris les manettes et maintenant qu'ils sont aux manettes, eh bien, ils sont en train de créer des temps difficiles et ils ont déjà commencé à le faire. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'héritage des Mitterrand, des Chirac, des Sarkozy, des Hollande, de toute cette génération de présidents faibles et fragiles. Hein. On n'a jamais retrouvé quelqu'un avec l'aura de Gaulle. Et donc, ces générations d'hommes fragiles sont en train de générer les temps difficiles qu'on vit aujourd'hui. Et elle est complètement validée. Est-ce que Ibn Khaldoun a écrit ou dit il y a plus de 7 siècles et est encore valide aujourd'hui? Question de DJ. Quelle est, selon toi, la différence entre la pensée libérale et la pensée néolibérale? Alors, DJ, c'est un sujet très, très, très long à développer. Et ce que je vais te promettre, c'est de faire un podcast dédié au libéralisme et au néolibéralisme. Je ne sais pas encore si ça sera une exclusivité Patreon ou si ça sera disponible à tous sur YouTube, mais tu auras ta réponse et je ferai un podcast dédié parce que si je développe le sujet dans ce podcast, on sera parti pour une demi-heure minimum, une heure, à ne parler que de ça. Donc je ferai un podcast dédié au libéralisme. Question de IG. Comment peut-on initier ses amis, son entourage, à la pilule rouge? Réponse simple, au travers de la lecture. Le mieux que tu puisses faire, parce que ça sert à rien au final de pousser les gens à vouloir devenir pilule rouge, à les forcer, regarde la pilule rouge, c'est ça qu'il faut devenir. Je pense qu'il vaut mieux laisser les gens lire, découvrir, apprendre, tu peux éventuellement conseiller les livres que tu as lus, les livres qui t'ont marqué, les podcasts qui t'ont marqué, aux gens de ton entourage que tu as envie d'initier. et les laisser suivre leur cheminement. Tu ne peux pas forcer les gens à faire ou à devenir quelque chose. C'est comme, par exemple, quand tu fais une formation, ou plutôt un cours magistral sur l'entrepreneuriat. Tu as une classe de 100 personnes et tu as l'un des meilleurs cours au monde sur l'entrepreneuriat. Donc tu développes ce cours à ces 100 personnes en espérant que maintenant qu'ils ont les clés de l'entrepreneuriat, de l'enrichissement, de la création d'entreprise, ils vont le faire. Mais tu réaliseras qu'au final, il n'y a qu'une personne sur les 100 qui ira vraiment créer son entreprise et qui utilisera vraiment ce qu'il a appris dans ce cours. Pourquoi? Parce que le savoir, c'est une chose, mais la capacité à le recevoir en est une autre. Donc, tu as plein de gens qui ont lu des livres Pilule Rouge, tu as plein de gens qui ont lu Napoléon Hill, tu as plein de gens qui ont lu Robert Greene, tu as plein de gens qui ont lu Rollo Tomassi, The Rational Male, L'homme rationnel. Mais t'as pas beaucoup de gens que ça a vraiment influencé ou à qui ça a vraiment changé la vie, parce que tout le monde n'est pas capable de recevoir l'information de la même façon. Donc je dirais que le moyen le plus agréable, le plus simple et le plus sympa aussi, hein, sans te forcer, sans te créer des ennemis, sans créer des tensions, c'est simplement de dire, tiens, j'ai lu ce livre récemment ou j'ai écouté ce podcast récemment, ça m'a marqué, je voulais le partager avec toi. Et cette personne va le lire ou va l'écouter et peut très bien te dire, waouh, ce truc est génial, ça m'a complètement chamboulé le crâne, ou elle peut simplement te dire, oui, merci pour le partage, c'était sympa, puis passer à côté. Il m'est arrivé plein de fois de partager des choses qui m'ont marqué, que j'ai trouvé phénoménales, et que j'ai partagé par exemple avec mon frère ou avec des amis, et moi je m'attendais à ce que ça les marque, tu vois, je partage un livre que j'ai découvert, je vais l'envoyer, et je vais dire tu dois vraiment lire ce livre, tu dois vraiment écouter ça, une vidéo YouTube par exemple de Jordan Peterson, hein, que par exemple, voilà, qui m'aurait marqué, je vais envoyer ça à quelqu'un en attendant ou en espérant que la personne va être aussi enthousiaste que moi. Genre, ouais, il a raison ce mec, c'est ça que je pensais, tu vois, j'attendais en retour le même enthousiasme que j'avais. Sauf que souvent, ça fait un bide. J'envoie le lien sur WhatsApp à un pote et où il me répond gentiment merci, puis sans plus, sans réaction, ou voilà, il répond même pas. Et au départ, j'étais un peu déçu en me disant, mais putain, je partage le truc qui m'a le plus marqué ou je partage un truc qui m'a retourné le cerveau, et les gens ne le comprennent pas. Mais c'est quoi ce monde de merde? C'est quoi ces gens de merde? Bon, puis après, bon, avec l'âge, tu apprends un peu mieux les gens, tu apprends un peu mieux la nature humaine, et tu remarques que ce qui t'a marqué ne va pas forcément marquer les autres. Ce qui t'a ouvert l'esprit, ce qui t'a orienté, ce qui t'a marqué, ne va pas forcément marquer les autres, et c'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas tous sur les mêmes fréquences, on n'a pas tous la même ambition, on n'est pas tous faits pareil, encore une fois, sur 100 personnes qui vont écouter un cours magistral sur l'entrepreneuriat, t'en auras qu'un seul qui va vraiment monter sa boîte et en faire quelque chose, et les 99 autres, ils vont prendre des notes et ils sortiront jamais ce carnet et ils vont passer à autre chose et ça ne les marquera jamais. Donc, ce que je dirais, c'est si tu as envie d'initier quelqu'un, ben partage ce qui t'a marqué de temps en temps, un livre qui t'a marqué, tu peux l'envoyer en disant tu devrais jeter un coup d'œil, ce truc est intéressant, et après tu laisses la personne en faire ce qu'elle veut. Peut-être que tu créeras un adepte, quelqu'un qui va lire, qui va, après avoir découvert ce livre, dévorer tous les autres livres. Et peut-être que ça fera ni chaud ni froid, et puis il passera à côté, ou elle passera à côté, en continuant sa vie sans plus, quoi. Question de YC. À ton avis, que se passerait-il dans un monde où tout le monde aura reçu le savoir pilule rouge, sachant que beaucoup ne sont pas prêts psychologiquement à le recevoir? Je sais qu'il faut se limiter à une seule question, mais je voulais aussi te demander une yes or no question. Oui ou non. Penses-tu que Sapiens, une brève histoire de l'humanité, est une référence pilule rouge? Ça a été un des premiers bouquins, avec des games, qui m'a donné une vision beaucoup plus large de la nature humaine et de tout ce qui est relatif à nos comportements et nos traditions. Réponse rapide, Sapiens, oui, yes, c'est un livre phénoménal que tout le monde devrait lire. Et peut-être que je développerai dans un podcast dédié. Oui, c'est un très bon livre à lire pour tous ceux qui veulent comprendre les origines de l'homme, les origines de nos comportements, les raisons de nos comportements. Et on ne peut qu'en sortir grandi. Pour ta question initiale, un monde dans lequel tout le monde serait pilule rouge n'existera jamais, parce que l'homme étant ainsi fait, personne ne s'ouvrira complètement, ou du moins jamais tout le monde ne s'ouvrira complètement au savoir pilule rouge. Tu auras toujours des décideurs, des navigateurs, des gens qui auront envie de faire autre chose, et tu auras des suiveurs, des gens qui sont bien dans leur confort. Dire que tout le monde devient pilule rouge, c'est comme dire, et si toute l'Europe avait pris un bateau pour aller découvrir l'Amérique? Si tu veux, des Christophe Colomb, il y en a eu quelques dizaines, des Marco Polo, il y en a eu quelques dizaines, des explorateurs, il y en a eu quelques dizaines, et c'est comme ça depuis que le monde est monde. T'as des gens qui se lèvent le matin, qui prennent leur petit-déj et qui se disent ben tiens, qu'est-ce que je vais bouffer à midi, ou qu'est-ce que je vais faire au travail aujourd'hui, ou quelle sera ma tâche. Des gens très pratiques, des gens très terre à terre. Et il y en a qui se lèvent le matin et qui se disent, comment je pourrais créer un propulseur qui m'emmènera jusqu'à Neptune? Ou est-il possible, avec une fusion nucléaire, de générer de l'air sur Mars? T'as des gens comme ça, voilà. T'as des gens au petit-déj, ils se lèvent et ils ont envie de révolutionner le monde. Ils ne pensent pas comme les autres. Il y a des gens qui ont une espèce de virus comme ça et ils ne peuvent pas se contenter de faire ce que les autres font. Et ça, c'est depuis que le monde est monde. Et ces gens-là, ça sera toujours 1 sur 1 million, 1 sur 10 millions. Si tu veux, pour prendre l'exemple d'Elon Musk, c'est quelqu'un qui était millionnaire à 27 ans, je crois. Il avait vendu ses parts dans sa boîte de tech, ou de sa boîte de tech. C'est quelqu'un qui, avec PayPal, aurait pu être un millionnaire tranquille, pépère. Il n'avait pas besoin de créer Tesla, il n'avait pas besoin de créer SpaceX. Il aurait pu juste vivre de ses millions tranquille. Sauf que le mec, il a un virus. Il a un virus, il peut pas poser son cul 30 secondes en se disant j'ai 170 millions de dollars et peut-être que je devrais en profiter et peut-être que je devrais juste aller m'amuser, baiser des gonzesses et profiter de la vie, m'acheter des voitures de sport et c'est tout. Il est passé par la case voiture de sport, dépenser du fric, tout ça, mais juste après, le mec a eu envie de créer des boîtes. Et juste après, le mec a créé Tesla, même si, bon, c'est pas la boîte du siècle, ça perd un peu d'argent, mais le but pour lui, c'est à ce stade, c'est plus de gagner du fric. Le but pour lui, c'est d'entreprendre, c'est de stay busy, c'est de rester occupé. Et donc, alors que le commun des mortels, dès qu'ils vendent leur boîte et qu'ils ont 170 millions de dollars sur leur compte bancaire, ils se posent et ils sirotent leur petit cocktail au soleil. Et t'as des gens comme Elon Musk, et le mec, ça lui suffit pas. Le mec, s'il a pas un challenge, un truc qui le motive pour se lever le matin, la vie ne l'intéresse pas. Donc, on ne sera jamais tous pilule rouge. Tu auras toujours une minorité de gens qui seront sensibles à ça, qui auront une espèce de virus qui les fait réveiller le matin, qui leur donne envie de faire des choses différentes. Et tu auras le reste de l'humanité. Et c'est comme ça depuis que le monde est monde. Question de Alan. Que suggérerais-tu de faire pour un homme dans le début de sa vingtaine sur la voie du MGTOW pour qu'il fasse les bons choix dans sa vie future, travail, femme, finances? Ce que je conseillerais, c'est un truc que j'aurais moi aimé faire. Ce que je vous conseille, c'est un truc que j'aurais moi personnellement aimé faire. C'est au moment où tu as ton bac, au moment où tu quittes le lycée pour aller à l'université, eh bien, prends une année pour réfléchir. Prends une année pour réfléchir. Et pendant cette année, voyage, explore le monde, prends un billet pour la Nouvelle-Zélande, trouve-toi une petite ferme et va tondre des moutons pendant un an. Et ça paye très bien au passage, hein. Y en a qui se font un petit pactole et une petite fortune en travaillant un an en Nouvelle-Zélande. Mais le but, c'est pas vraiment ça, c'est de Avant de savoir dans quoi te jeter, parce qu'on a des conseillers d'orientation de merde qui vont te conseiller quelque chose qui finalement ne va pas te convenir, essaye de comprendre ta nature profonde. Est-ce que tu es un manuel? Est-ce que tu es un cérébral? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime travailler le bois, qui se sent heureux à l'extérieur, en plein air, quelqu'un qui aime planter des choses, qui aime tailler des haies, qui aime travailler dans les jardins? Ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui est plutôt une nature de geek, qui aime rester chez lui, tranquille, à faire du code, à travailler sur Internet? Essaye de comprendre ta nature profonde parce qu'on en a tous une. Si tu as une nature introvertie de geek, tu seras mal à l'aise dans des environnements extérieurs ou dans le travail à l'extérieur ou dans le travail manuel. Et si tu as une nature manuelle où tu deviens fou si tu es devant un écran et que tu préfères travailler le bois, que tu préfères vivre du travail de tes mains, eh bien il faut aller vers ça. Et la plupart des gens sautent dans les études sans ne jamais s'être posé la question. Quelle est ma nature profonde? On est tous doués à faire quelque chose. On a tous une espèce de tendance à faire quelque chose. T'as des gens qui sont heureux devant leur écran à faire du code pendant des heures. Le truc qui, toi, te rendrait fou, le truc où toi, t'as envie de te tirer une balle dans la tête, le mec, il kiffe. Tu vois, il est tranquille, il se fait un petit thé, un café, il se met devant son clavier et il code, il code, il code pendant des heures. Il code jusqu'à tomber de sommeil sur son clavier et le mec, il kiffe. C'est sa nature. C'est un introverti, il n'aime pas sortir, il est bien dans cet environnement. Et donc il est plutôt bien tombé. Mais t'as des gens qui ne sont pas faits pour ça, des gens qui ont des natures où ils aiment être à l'extérieur, ils aiment être par exemple au contact des autres, et au lieu d'ouvrir un resto, un café, parce que si t'aimes parler aux autres, si t'aimes parler voir des gens, etc., ben, lance-toi dans créer une auberge de jeunesse, créer un hôtel, créer un resto, si c'est le contact des gens qui t'intéresse, ne crée pas un business internet. Si vraiment tu veux voir des voyageurs, des visiteurs, eh bien achète un gîte, aménage quelques chambres et tu pourras vivre de ça tout en voyant toute l'année des backpackers, des voyageurs, tu pourras discuter, raconter, leur faire visiter la ville, le village. Si tu as une nature comme ça, ne te jette pas dans un métier où tu vas te retrouver bloqué face à un écran. Donc moi ce que je conseillerais c'est avant de faire quoi que ce soit, essaye de comprendre qui tu es. Et quelle est ta tendance naturelle? Quel est ton talent? Quelle est ta nature profonde? Quel est le don naturel que tu as? Et une fois que tu auras compris ça, et ça demande du temps, c'est pas un truc que tu découvres en 15 jours, faudra que tu essayes, tu vas. Peut-être que toi qui pensais aimer le travail en extérieur, tu vas aller tondre des moutons en Nouvelle-Zélande, au bout de 15 jours, tu auras mal au dos, mal au crâne, tu en auras ras le cul, et tu diras plus jamais de ma vie je passerai une journée dans une ferme. Mais avant de savoir ça, il faudra l'avoir fait. Donc moi je conseillerais de toucher un peu à tout. De tester des choses, de voyager, de côtoyer d'autres cultures, d'autres personnes, et ensuite de décider ce que tu veux faire dans la vie. C'est ça que je conseillerais aux jeunes, c'est ne te jette pas corps et âme dans quelque chose que tu vas détester plus tard. Essaye d'abord de tester, de te comprendre, de comprendre ta nature, et ensuite, une fois que tu diras, ça c'est moi, ça y est, j'ai compris, je sais ce que je vais faire. Là, tu peux enfin prendre ta voix. Question de No. Voici ma question. Entre 18 et 26, 27 ans, j'avais d'assez bonnes facilités à pécho, à séduire naturellement, un physique très correct, sans être exceptionnel, mais surtout mon humour, ma personnalité et ma tchatche. Aujourd'hui, à 30 ans, je ne séduis plus personne. J'ai pris pas loin de 100% de râteaux sur les 2-3 dernières années. Plus aucune fille ne me regarde en soirée, ni ne vient me voir elle-même. Alors que pourtant, je me trouve mieux qu'à l'époque où je chopais, plus mature, plus intéressant. Et cultivé, plus sportif, plus physique, etc. Quelle explication pourrais-tu donner à cela? As-tu déjà rencontré des personnes dans cette situation? J'ai plusieurs théories là-dessus, notamment le fait d'avoir changé de ville a probablement joué. Mais je ne rentrerai pas dans les détails car ça serait trop long. Je laisse cette question ouverte à tout ce que tu pourras trouver à dire, quitte à ce que cela ne me concerne pas directement. Alors, il est vrai que des hommes qui ont plus de succès lorsqu'ils sont jeunes, genre 18, 19, 25 ans, que lorsqu'ils vieillissent un peu, c'est assez rare parce que normalement, vers la trentaine, t'as plus d'expérience, t'es plus mature, t'as plus de présence, t'as un peu vécu dans ta vie, donc les femmes vont naturellement être attirées par ce genre d'homme plus que par un gamin. Maintenant, si c'est le contraire pour toi, comme tu le dis, le fait d'avoir changé de ville, ça peut être une raison, parce que on va dire que lorsque tu sortais entre 18 et 27 ans, tu sortais dans ta ville, probablement avec tes amis, ton entourage, tu avais déjà une valeur sociale, les filles qui te fréquentaient devaient savoir que tu étais le fils d'un tel qui habitait dans telle maison, dans tel quartier, surtout si c'était une petite communauté soudée. Donc, quelque part, dans une petite ville ou dans un petit village, lorsque tu rencontres des gens, tu as déjà une réputation. T'as pas besoin de prouver que t'es un garçon bien ou que t'es un sportif ou que t'es... Voilà, les filles savent que, ah oui, c'est tel garçon qui fait du karaté, qui est dans tel club, qui fait tel boulot. Donc, si tu veux, ta réputation, les amis qui t'entourent, et probablement quand t'as beaucoup d'amis, tu vas à des soirées d'amis qui te présentent d'autres amis, et donc tu vas rencontrer des femmes dans ce cercle social qui fait que c'est plus facile que lorsque tu débarques dans une grande ville, admettons, tu quittes la France et tu vas à Montréal, ou tu viens à Londres, ou tu vas à Paris, ou tu repars de zéro. T'as pas de cercle social, t'as pas d'amis qui t'invitent à leur soirée, t'as pas forcément déjà cette validation. C'est important d'avoir un groupe d'amis. Quand tu vas dans une soirée où tu as déjà des potes, même si tu es un peu timide, dès que tu arrives, on va te présenter. Ah tiens, ça c'est un tel, viens, je te présente à Stéphanie, elle travaille avec moi depuis un mois, etc. Tu as les collègues des collègues qui s'invitent. Donc, si tu veux, tu as cette espèce d'émulation qui fait que tu n'as même plus besoin de draguer quelque part. Tu es tellement dans ce cercle d'amis qui se connaissent, qui se fréquentent, que tu assez naturellement rencontres des gens et rencontres des femmes. Ça, c'est la plus grosse raison que je vois, parce que tu dis que t'es mieux, parce que je me suis dit, il a peut-être, je sais pas, passé 27 ans, il a peut-être un peu grossi, il a perdu ses cheveux, enfin, physiquement, peut-être que t'as un peu changé, mais là, tu me dis que tu te trouves mieux, t'es mieux bâti, t'es plus costaud, tu te sens bien, et pourtant, tu te prends 100% de râteau. Donc, peut-être que t'as changé de ligue, que t'es allé d'une petite zone de confort tranquille avec un cercle d'amis, à une méga ville ou une autre ville, une grosse ville, ou sans que la ville soit grosse, une ville où tu connais personne, et donc à part les boîtes de nuit ou Tinder ou des petits bars ou des petits clubs où tu peux rencontrer des femmes, il ne te reste plus beaucoup d'options. Et forcément, dans ces environnements, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Quand tu vas en boîte de nuit avec 5, 6 potes où tu as des garçons et des filles, t'es déjà en train de t'amuser, t'es déjà en train de prendre du bon temps, c'est plus facile d'approcher d'autres femmes, de les intégrer à ton groupe, que quand t'es dans un endroit que tu ne connais pas très bien, t'y vas tout seul ou t'y vas avec un pote, c'est beaucoup beaucoup plus dur. T'as pas la validation, tu pars de très loin, et faut que tu prouves tout. Donc à part ça, je ne vois aucune autre raison à ça, parce que là tu me parles de deux extrêmes. Entre 18 et 27 ans, tu pécho tout ce qui bouge, ça se passe bien, tu as une vie sexuelle épanouie. Et là, d'un seul coup, alors que t'es pas très vieux, t'as 30 ans. 30 ans, c'est la tranche d'âge magnifique. C'est là où tu peux pécho toutes les filles entre 18 et 40 ans, quoi. Toutes les gonzesses te trouvent encore assez jeune à 30 ans, même les gonzesses de 18, 19 ans te trouvent assez jeune pour pouvoir se donner à toi. Et toutes les meufs de 35, 40 ans te trouvent aussi pas mal et ont envie de coucher avec toi. Donc 30 ans, c'est l'âge où t'as le plus gros spectre possible pour baiser. Et en plus, si tu t'es entretenu, si t'as un beau corps, si tu fais du sport, si t'as pas grossi, si t'es pas complètement parti en couille, vraiment, je vois pas la raison. En plus, avec l'expérience aidant le statut social, j'imagine qu'à 30 ans, tu gagnes plus d'argent qu'à 25 ou 24 ans. À part le fait que t'aies changé de ville et que tu repartes de zéro, et que, en fait, t'es obligé de faire ce qu'on appelle en anglais des cold approach, des approches froides. Quand tu parles à l'ami d'une amie, c'est une approche où elle te connaît déjà, donc tu es déjà en territoire conquis. Alors que dans une ville que tu connais pas, la meuf à qui tu pars de très loin, donc faut que tu lui expliques qui tu es, que tu la rassures, que tu lui expliques que tu as un statut social, que tu vaux tant. Donc c'est plus dur. C'est dur, mais c'est pas impossible, hein. Faut juste s'habituer à la mentalité dans les grandes villes et à la façon de rencontrer des femmes dans les grandes villes. Et moi, je t'encourage plutôt à aller faire des cours de danse, salsa, bachata. Il y a plein de gonzesses dans ces groupes-là. Tu te feras des amis, tu rencontreras des gens. Fais des activités d'escalade. C'est un peu l'avantage dans les grandes villes. Il y a beaucoup de choses à faire. Et essaye de rencontrer des gens dans ce cadre-là plutôt que les boîtes de nuit, les bars. Essaye de te refaire un groupe d'amis, un groupe de connaissances, et tu verras que tu pourras recréer le cercle virtueux que tu connaissais avant. Question de Guillaume. Bonjour l'observateur. Voici ma question pour le prochain Q&A. La plupart des divorces sont déclenchés par des problèmes d'argent, surtout avec la crise économique à venir. Si un jour tu te mets en couple avec ta compagne, tu penses gérer l'argent avec un compte commun, deux comptes séparés ou deux comptes séparés plus un compte commun? Avis personnel, les trois réponses ne changeront pas le sort de votre couple. Alors, Guillaume, oui, tu as raison de dire que la façon dont on répartit les comptes ne change pas le sort du couple qui veut se séparer, quelle qu'en soit la raison. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va rendre le divorce beaucoup plus propre. Et sans hésiter, la seule option possible et viable, c'est deux comptes séparés plus un compte commun. Et voici comment ça doit s'organiser. Le compte commun servira à payer le loyer, les dépenses du quotidien et uniquement ça, et uniquement les dépenses du couple. Donc chacun, à la fin du mois, alimente le compte commun qui permettra de payer les courses du foyer, le loyer, éventuellement les vacances du couple, du moins tout ce qu'on fait en commun. Et les comptes séparés, c'est pour chacun, pour s'acheter des vêtements, des chaussures, un pantalon, les dépenses personnelles. Le compte commun peut aussi servir à payer l'essence de la voiture, par exemple, tout ce qui est en commun. Et les comptes personnels, eh bien, comme leur nom l'indique, vous les gardez chacun pour soi. Et il ne faut pas dévier de cette règle. Si, par exemple, tu commences à utiliser le compte commun pour t'acheter une paire de chaussures à toi, c'est là où ça commence à partir en couille. Parce que sur le compte commun, vous aurez chacun une carte bancaire. Donc théoriquement, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais si tu respectes la règle, tu ne vas pas te faire plaisir à toi avec le compte commun. Parce que le compte commun, vous y avez tous les deux participé. Et je peux te dire que ta copine ou ta femme, elle ne sera pas contente si elle voit que tu as acheté un DVD ou une console de jeu avec l'argent commun. Donc ça, c'est vraiment la règle. Et ça aide beaucoup pour les divorces parce que le divorce finalement est beaucoup plus propre. Chacun a gardé ses économies, son livret A, l'argent qu'il a investi sur son compte propre. Et le compte commun finalement, c'est un compte sur lequel on mettait un peu d'argent et qui servait régulièrement à payer les courses, l'essence, le loyer. Et c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus clean quelque part, pour gérer les dépenses. Et tous les couples intelligents, éduqués, sérieux fonctionnent comme ça, hein, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes salaires, on n'a pas forcément les mêmes ambitions, on n'a pas forcément la même volonté d'investir. Et donc les comptes séparés, chacun en fait ce qu'il veut. Et le compte commun, c'est le compte de la famille. Et il faut être très rigoureux et très sérieux, parce que si toi, tu commences à te payer un resto avec le compte commun, que elle va s'acheter, je ne sais quoi, une robe, une veste en cuir avec le compte commun, bon, après, ça part en couille, quoi. C'est aussi, tout ça, c'est aussi basé sur la confiance. Donc, si les deux sont sérieux, le compte commun est vraiment une question de bon sens. Donc, si je devais gérer la chose, je gérerai comme ça. Et les couples bien gérés, quelque part, c'est des couples qui anticipent déjà la séparation. C'est-à-dire que même si tu ne te sépares jamais, même si tu restes toute ta vie avec ta compagne, gère tes affaires comme si tu allais un jour te séparer. Ce qui fait que même si le pire arrive, si tu finis par te séparer, eh bien, ben voilà, les comptes sont clairs, les comptes sont propres, tout n'est pas mélangé, on ne se bagarre pas pour la petite cuillère, pour qui a acheté quoi, pour... Les choses qui sont en commun sont claires, sont définies, et les choses qui appartiennent à chacun sont aussi claires et définies. Et les divorces de chiffonniers, hein, ce que j'appelle les divorces de chiffonniers, c'est les divorces où les gens commencent, se détestent tellement qu'ils s'engueulent sur les petites cuillères, la nappe, la serviette, des trucs qui coûtent 3 centimes, quoi. Mais ils se détestent tellement qu'ils sont prêts à se foutre sur la gueule à cause de ça. Et au final, ce qui les intéresse, c'est plus vraiment l'objet en lui-même, mais c'est juste le plaisir de se foutre sur la gueule. Et c'est souvent des gens qui étaient dans une passion, qui se sont aimés, qui se sont dit jamais on fera de comptes séparés, on met tout ensemble, on s'aime, c'est l'amour. Et voilà, ils savent plus qui a acheté quoi, ils se déchirent comme des chiens enragés. Et c'est souvent des gens pas très éduqués, un peu trop passionnés, qui finissent par se détester au final. Mais les gens très éduqués, organisés, arrivent à avoir des divorces assez propres et assez organisés au final, hein. J'ai des gens dans mon entourage qui ont fait des divorces très clean, hein. Ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Chacun est parti de son côté. Bon, il y avait les enfants au milieu, bien sûr. Mais ils ne se sont pas détestés, quoi. Les choses étaient très bien organisées. Ils se sont mis d'accord sur la garde des enfants. Ils continuent à se parler, à se voir comme des amis, poliment. Mais ils ont réussi à divorcer sans se détester. Parce qu'au final, il y a les gamins au milieu. Et un couple qui se sépare, c'est déjà dramatique. Si en plus, ça se fait dans de mauvaises conditions, tout le monde se déteste, pour les gamins, c'est une catastrophe. Donc, si le pire arrive et que tu divorces, au moins, essaye de préserver l'équilibre et la sanité de tes gamins. Question de A à Z. Comment expliques-tu le phénomène des femmes bâties comme des tonneaux ou des tanks, comme tu veux, qui arrivent à dominer des hommes plutôt beaux et propres sur eux? Bon, ça aura le mérite de m'avoir fait rire, ça. Les femmes bâties comme des tonneaux ou des tanks qui arrivent à attirer ou à dominer des hommes plutôt beaux. La réponse simple serait probablement que ces hommes ont déjà des fragilités et ont besoin d'être avec une femme qui les domine. C'est des hommes qui n'ont peut-être pas eu de modèle paternel, de modèle masculin, des hommes qui ont eu une fragilité quelconque dans leur enfance et qui n'arrivent pas à jouer le rôle d'homme dominant, masculin, présent, le père de famille. Et les personnalités sont souvent complémentaires. Tu trouveras beaucoup d'hommes très masculins, très machos, très virils, avec des femmes extrêmement féminines, extrêmement douces. La quintessence de la féminité, et tu trouveras des hommes métrosexuels, très fins, très polis, très éduqués, avec des femmes qui se comportent comme des bonhommes. Les couples sont assez complémentaires, et tu remarqueras beaucoup ça, hein. La masculinité chez un homme attire la féminité chez une femme, et la féminité chez un homme attire la masculinité chez une femme. Donc je l'explique comme ça quelque part. Faut toujours qu'il y ait un leader et un follower, faut toujours qu'il y ait un leader et un autre qui suit quelque part. Donc la relation fonctionne souvent comme ça, par complémentarité. Donc plus t'es féminin, rien à voir avec l'homosexualité, hein, plus t'es féminin dans ton comportement d'homme, hein, plus t'es soigné, plus t'as des traits féminins, on va dire, plus t'as de chances d'attirer une femme plutôt dominatrice, plutôt masculine dans son comportement. Et plus t'es macho, plus t'es homme, et plus tu attireras des femmes très fines, très élégantes, très féminines. Question de AB. Supposons qu'un homme réussisse et qu'à 35 ans, il veuille se poser avec une femme pour fonder une famille. Est-ce qu'au final, il ne va pas attirer une femme vénale qui le quittera aussitôt qu'il perdra son statut social, baisse d'activité, faillite, crise économique, etc.? Il n'y a pas vraiment de règle sur le sujet. Je pense que tu as des cas où une femme va te quitter au moment où tu perds tout ton fric. Il y a des femmes qui, au contraire, vont rester avec toi, vont se battre, vont même t'aider à reconstruire ce fric. Je pense que ça dépend de la croyance qu'elle a en toi et ça dépend de son logiciel. Donc, à la base, toutes les femmes veulent un homme qui réussit. Faut pas déconner, il n'y a aucune femme qui veut habiter dans un taudis. Donc, quelque part, la ressource, même si la femme n'est pas une michetonneuse, même si c'est pas une femme qui est nécessairement attirée par l'argent, elle voudra toujours que tu aies un minimum de confort, que tu aies une maison, que tu arrives à subvenir aux besoins de la famille. Ça, c'est la base. Donc la plupart des femmes, tant que tu resteras, si elle est avec toi pour les bonnes raisons, hein, si t'es tombé sur une michetonneuse, c'est manque de bol. Mais de toute façon, les michetonneuses, tu devrais les reconnaître d'assez loin. La michetonneuse, dès le début de la relation, veut beaucoup te faire consommer. Je vais te donner un exemple. T'as rencontré une femme qui veut faire resto sur resto tout le temps. Et quand tu lui dis, mais viens ce soir en cuisine à la maison, on va se poser, on se met un petit film tranquille, elle va te faire, non, 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 j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller à telle soirée, ma copine m'a parlé de tel restaurant. J'en ai connu des meufs comme ça. Elles sont insupportables. Et en général, pour moi, c'est l'alarme. Je ne reste pas avec elles quand elles sont comme ça. Toutes les femmes veulent de temps en temps que tu leur fasses plaisir. Donc voilà, tu vas faire un resto une fois, deux fois. Puis voilà, tu fais pas les restos trois fois par semaine. Mais la michto, elle voudra te faire consommer tout le temps. Au lieu de venir prendre un verre chez toi, elle va te donner rendez-vous dans un bar branché, un bar à 15 euros le cocktail. Elle ne voudra pas rester chez toi, elle n'aime pas beaucoup rester à la maison, elle veut te faire dépenser, elle veut aller en vacances. En fait, la michto est très agitée. La michto, elle ne comprend pas la soirée tranquille avec une série Netflix et un petit plateau télé, tu vois. Ça la met hors d'elle parce que tu ne dépenses pas d'argent. Donc ce type de femme, tu les fuis directement, hein. Ne reste pas avec une femme qui a un rapport malsain à l'argent dans le sens où elle te fait dépenser excessivement et tout le temps, et surtout si elle fait la gueule, si tu refuses de dépenser. Par exemple, elle veut faire un resto et tu lui dis non, non, là on est le 27 du mois, on va se calmer un peu, attends, attends que j'ai une petite rentrée d'argent, et elle va te faire la gueule. Tu vois, ça c'est pas normal, ça tu la largues direct. Une femme normale qui t'aime et qui t'apprécie pour ce que tu es, même si elle a envie d'aller au resto, elle va comprendre que le 27 du mois, c'est pas forcément le meilleur moment pour y aller, et elle va accepter de rester avec toi, prendre un plateau télé, regarder une petite série ou aller faire une balade, aller faire un truc qui coûte pas nécessairement du fric. Et ça, c'est le comportement normal d'une femme. Donc, si tu évacues toutes les michetos qui sont hystériques et qui veulent te faire dépenser tout le temps, une femme normale que tu as rencontrée dans des conditions normales, et on va dire qu'on a un peu de la chance quelque part en France parce que le profil michto est un peu plus rare, par exemple, qu'aux États-Unis. Si tu veux, à Miami, le profil michto, c'est la moitié de la ville. À Miami, si tu lâches pas le cocktail à 25 dollars, t'existes pas. C'est la folie, c'est insane, c'est hors de proportion. Parce que la vie est tellement chère que les femmes, et puis il y a une densité de millionnaires telle que les femmes ne jurent que par ça. Elles veulent toutes capitaliser leur beauté avec un millionnaire. On va dire qu'en France, on est un peu. Il y a peut-être une tradition catholique, il y a peut-être une histoire différente, et surtout dans les petites villes, on n'a pas trop ce logiciel de michetonneuse qui va te faire une crise si tu ne payes pas le cocktail à 25 dollars. Donc, dans la majorité des cas, on va dire qu'en général, une femme va te quitter pour d'autres raisons qu'une faillite, hein. La plupart des femmes, si tu es solide, si elles croient en toi, si elles savent que tu peux te refaire, vont rester avec toi. Et c'est encore mieux si tu les as connues avant de devenir riche, bien sûr, si tu les as connues avant de faire ta fortune. Ça veut dire qu'une femme qui t'a connue pauvre et qu'ensuite s'est enrichie avec toi, elle aura plus de chances de rester avec toi si jamais tu t'appauvris, parce qu'elle t'a déjà connu pauvre. Donc elle ne t'a pas choisi pour ton argent, elle t'a choisi pour ce qu'elle a vu en toi, ta capacité à fonder une famille, ta capacité à être un homme. Donc idéalement, oui, pour éviter de tomber sur une michto, il vaut mieux rencontrer des femmes un peu plus jeunes au moment où on n'est pas encore riche, pour être sûr que t'es pas avec une femme parce que tu t'es enrichi. Mais ça, c'est assez rare et la plupart du temps, eh bien, tu rencontres une gonzesse après 30 ans, au moment où tu commences déjà à être au sommet de ta carrière. Mais après, il faut faire confiance à son flair. L'instinct en général nous dit si on est avec la bonne personne, c'est souvent que on n'est pas assez courageux pour arrêter une relation qui ne marche pas, ou on aime trop la baise, ou on aime trop les moments qu'on passe ensemble et on n'ose pas se quitter. Mais en général, les hommes ont des signaux, les hommes intelligents ont des signaux qui te disent qu'une femme est dangereuse pour toi et que tu dois la quitter. Des femmes qui ne respectent pas ton temps, des femmes qui te font dépenser de façon irraisonnable, des femmes qui ne comprennent pas quand tu ne peux pas leur offrir quelque chose, qui font des crises d'hystérie à chaque fois qu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent. Ça, c'est les signaux d'alarme que tu dois fuir quand ça arrive. Donc, je dirais, écoute un peu tes instincts. Fie-toi à tes instincts et essaye de reconnaître les signaux qui font que une relation doit s'arrêter, que tu dois jeter la gonzesse. Hein. Celle qui te dit où on fait un resto, où je viens pas te voir. Si elle te dit par exemple viens on se voit on fait un resto et toi tu dis non non je suis un peu juste ce mois-ci viens on se fait un plateau télé chez moi. Si elle te fait non c'est resto ou rien, ben là tu peux lui dire d'aller se faire enculer parce que c'est pas le comportement d'une femme qui tient à toi.